Salut chers amis, je suis ravi que vous m'ayez rejoint aujourd'hui et je crois qu'en restant à l'écoute pendant les prochaines minutes, vous serez aussi ravis. Nous allons étudier la parole de Dieu, deux mots qui peuvent tout changer, deux mots qui peuvent transformer votre vie. Ces deux mots sont impliqués dans de nombreuses histoires dans les Écritures et en constituent le tournant décisif où tout est changé du négatif au positif. Vous allez adorer. Et si vous avez une Bible, prenez-la. Nous allons donc étudier ces deux mots ensemble. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Nous sommes au bureau de Cottonwood Church. Notre nouveau studio est en construction. Mais nous continuons à prêcher la parole de Dieu pour vous donner espoir et foi. Voici Bayless.
Bien, j'espère que vous vous êtes mis à l'aise. Je vous invite à mettre votre ceinture de sécurité et votre casque de sécurité parce que nous allons décoller. En fait, nous allons chercher dans une phrase, deux mots, tissés dans certaines histoires de la Bible que vous pourriez négliger si vous n'êtes pas attentif. Et pourtant, ces mots changent tout. Ce sont les deux mots « mais » « Dieu ». Nous avons vu l'histoire de Joseph vendu par ses frères en Égypte, trahi par sa propre famille, qui a eu un parcours difficile. Il semblait donc que ses rêves ne se réaliseraient jamais. Lisons maintenant les versets dans Actes des Apôtres, chapitre 7. « Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu, les bonnes choses ne seraient jamais arrivées. Il n'y aurait jamais eu de changement. Mais Dieu. » Ensuite, nous avons vu l'histoire de Jacob, escroqué, trompé et traité injustement par son beau-père. Mais Dieu. Jacob dit, « Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Bien qu'il fût escroqué et traité injustement, Dieu changea la situation. Et c'est peut-être votre cas. On vous a traité injustement au travail. On a menti sur vous. On vous a ignoré pour une promotion. Peut-être rien ne marche. Cela serait une histoire plutôt sombre s'il n'y avait pas ces deux mots. Mais Dieu. Nous avons aussi vu le cas d'un homme nommé Épaphrodite. Paul a parlé de lui dans sa lettre aux Philippiens. En fait, Épaphrodite était malade près de la mort. Mais Dieu. Paul dit, « Mais Dieu a eu pitié de lui. » Et il a guéri Épaphrodite. Et parfois, nous pouvons être dans une situation où les choses se dégradent physiquement en vitesse. Mon ami, ça peut paraître sans espoir. La science médicale pourrait être sans solution. Mais il y a deux mots dont nous devons nous souvenir. Mais Dieu. Et j'ai dit ceci. Si vous avez suivi les émissions précédentes et les leçons que nous avons enregistrées, j'ai plaidé coupable au fait de donner de l'espoir aux gens. Je fais tout pour vous donner de l'espoir parce que j'ai la foi et l'assurance des choses qu'on espère. En fait, les promesses et les histoires dans la Bible ne sont pas là pour que nous les admirions. Elles sont là pour nous instruire et nous donner la foi. Parce que mon ami, Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et sans la foi, il n'est pas difficile, mais impossible de plaire à Dieu. La Bible dit que c'est impossible de lui être agréable sans la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En lisant les histoires dans la Bible, j'ai réalisé que ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Et Dieu peut le faire pour vous aussi. Et nous arrivons à un autre « mais Dieu ». Cela pourrait être la chose la plus importante que vous ayez jamais entendue dans votre vie. Écoutez, je ne suis pas en train d'exagérer dans mes propos. Je veux vous dire un extrait du chapitre 2 des Éphésiens, et en commençant par le verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 5. Éphésiens 2, versets 1 à 5 dit, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, oui, tout comme la culture et le monde qui vous entourent, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Là, c'est un élément important. Dans 1 Jean, il dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Et ici, Paul dit la même chose dans Éphésiens. Quand nous n'étions pas sauvés, quand nous étions dans le monde, nous étions sous l'influence, pas seulement de la culture mondaine, mais du Dieu petit, D-I-E-U, le petit Dieu de ce monde, le diable. Jean a dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous étions sous cette influence. En continuant, il dit au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions tout comme les autres. Cela concerne notre nature intérieure, mon ami. Et voici les mots, « Mais Dieu ». Mais Dieu, vous l'entendez ? Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voici donc l'image. Nous faisons partie de ce monde non sauvé qui est véritablement sous l'influence du diable. Parfois, on se demande comment les gens peuvent faire des folies et dire des choses aussi insensées. Certaines choses sont tout juste irrationnelles. Elles n'ont aucun sens. Les gens célèbrent la méchanceté. Ils appellent le mal bien et vice-versa. Pour nous, nous demandons, comment est-ce possible? Comment les gens peuvent-ils célébrer des choses immorales ou méchantes et supprimer les choses justes, saintes et morales? Eh bien, c'est parce que le monde est sous influence du mal. Notre mode de vie en dépendait autrefois. Nous étions influencés de la même manière, morts dans nos offenses et nos péchés. Mais Dieu, qui est riche en compassion, mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés lorsque nous étions morts, en raison de nos fautes, nous a rendu la vie en Christ. Lorsque nous lui faisons confiance, j'avais un ami, il s'appelle Howard. Il faut avoir rencontré Howard pour comprendre à quel point ce que je vais vous dire est drôle. Howard pouvait dire les choses les plus marrantes en gardant un air sérieux, sans aucun changement dans son expression. Il pouvait dire quelque chose et garder un visage neutre. Du coup, ce qu'il disait était 10 fois plus drôle. C'était la façon d'être d'Howard. Nous avions l'habitude d'aller dans un restaurant local après les réunions. Puis, une fois, nous étions assis dans ce restaurant local. Nous avions tous mangé quelque chose. Je crois bien que nous étions prêts à partir. Et habituellement, chacun donnait de l'argent pour le pourboire. Les serveuses ou les serveurs aimaient donc nous avoir là-bas parce qu'ils recevaient un pourboire 10 fois plus gros que le pourboire normal. Et d'ailleurs, si vous êtes chrétien, vous devriez donner le plus gros pourboire dans le restaurant. Vous devez bénir les gens. Ne laissez pas les gens savoir que vous êtes un chrétien parce que vous ne partagez pas. Faites-leur savoir que vous prenez soin des gens parce que vous êtes chrétien. Mais bon, c'est seulement une petite parenthèse. Bref, revenons à notre sujet. Et Howard s'est en quelque sorte engagé dans une conversation avec un homme. Ce dernier avait apparemment compris que nous étions des chrétiens. Je me tenais près de lui. Cet homme pensait donc faire peur à Howard. C'est comme s'il a pensé, « Ok, j'ai un groupe de chrétiens ici, je vais les faire flipper. » Alors, il commence à parler en disant, « Gars, je pratique la sorcellerie. Ouais, je fais du vaudou. Je jette des sorts. Je suis dans les trucs surnaturels. Et j'ai un livre de magie. » Puis, il continue en pensant qu'il va impressionner Howard et en quelque sorte effrayer le reste de ces petits chrétiens naïfs. « Oh mon Dieu, il a parlé de sorcellerie !» Alors il continue, « Ouais, j'ai fait du vaudou et j'ai déjà jeté des sorts. » Mais Howard, avec un air sérieux, le regarde et lui dit, « Oui, j'étais mort avant. » Et il n'a pas du tout changé son expression. C'était tellement drôle. Puis l'homme lui a jeté un regard interrogateur. « Quoi ?» Howard lui a répondu, « Oui, j'étais mort avant. Mort dans mes offenses et mes péchés, mort à Dieu, mort à une relation avec Dieu. Mais Jésus est entré dans ma vie et il a tout changé. » Puis, il a parlé du Christ avec cet homme. C'était tout simplement magnifique. C'est en effet la vraie réponse à la question. Nous étions morts, morts dans nos offenses et nos péchés, et notre vie a été séparée de Dieu. Dans le jardin d'Éden, avant qu'Adam ne pêche, Dieu lui a dit, « Regarde, tout ce que tu vois ici est à toi, Adam. Tu as la domination sur toute la terre et je t'en donne la responsabilité. Cependant, je t'ordonne de ne pas toucher une seule chose. Il s'agit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis le seul à décider de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est un péché, de ce qui n'en est pas. » Puis, il a ajouté, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et nous connaissons l'histoire. Adam voulait être comme Dieu. Et il a donc mangé de cet arbre. En gros, du genre Dieu, je n'ai pas besoin d'être sous ton autorité. Je peux décider par moi-même de ce qui est bien et mal. Qui dit que tu as le droit de fixer des limites pour moi et de dire que telle chose est interdite et telle autre mauvaise? Je peux décider pour moi-même. Ma vérité peut ne pas être ta vérité. C'est en fait ce que nous entendons dans le monde aujourd'hui. Oh, ces chrétiens avec leur morale puritaine, et ils disent que c'est mal. Non, non, non. C'est Dieu qui fixe les limites, mon ami. Le même problème avec l'humanité au commencement reste le même d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas vivre dans le territoire que Dieu fixe, qu'il établit pour notre propre bien. Dieu seul peut définir le bien et le mal de ce qu'est un péché ou non. Pourtant, le monde veut créer ses propres règles, et cela en plein mouvement, avec un changement constant de moralité. Et Dieu a dit à Adam, que si jamais il décide de ne plus être sous son règne, de ne plus vivre sous son autorité, que le jour où il en mangera, il mourra. Le plus intéressant, en lisant Genèse dans la traduction littérale hébraïque, Dieu a dit que vous allez mourir. Mourir, le mot apparaît deux fois. Certaines traductions disent « en mourant, vous mourrez ». Littéralement, cela signifie « Adam, tu vas mourir d'une double mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Adam, bien sûr, a fait le choix de ne plus être sous le gouvernement de Dieu. Il s'est retiré de l'autorité de Dieu. Mais si vous lisez bien, il n'est pas mort ce jour-là. Pourtant, Dieu avait dit que ce serait le cas. Non, après ce jour, il a encore vécu de nombreuses années et a fini par mourir physiquement. Mais en fait, ce jour-là, il était déjà mort. Il était mort spirituellement. Il était déconnecté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Cela signifie être séparé de Dieu, être coupé de la vie de Dieu, être écarté de Dieu. Adam est alors mort intérieurement. Il a été déconnecté de Dieu. Il est mort spirituellement. Et par conséquent, des années plus tard, il est mort physiquement. La mort spirituelle ne signifie pas qu'on cesse d'exister. Mon ami, vous êtes un être éternel. Vous allez passer l'éternité quelque part. Je suis un être éternel. Je vais passer l'éternité quelque part. Et le seul moyen de passer l'éternité avec Dieu, c'est de naître de nouveau et de recevoir une nouvelle vie et d'être reconnecté avec Dieu. Et voici ce que dit l'Écriture dans Romains, chapitre 5. C'est pourquoi le verset 12 nous concerne particulièrement. Il est dit, « C'est pourquoi de même que par un seul homme, en parlant d'Adam, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est donc par Adam et Ève, la source de l'humanité, et par leur transgression, que la mort spirituelle ou la séparation d'avec Dieu est entrée dans le monde et s'est répandue sur tous les hommes. Puis nous l'avons renforcée parce que nous avons péché nous-mêmes. Ainsi, nous sommes devenus des êtres humains déconnectés et séparés de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a ce vide douloureux dans la vie et le cœur des gens. Les gens se demandent, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai une femme charmante, j'ai un mari séduisant, j'ai des enfants, j'ai plus qu'assez d'argent, j'ai des amis sincères, mais je suis vide à l'intérieur. Il me manque quelque chose. Pour essayer de combler ce vide en eux, les gens s'engagent dans une relation adultère où ils commencent à se droguer et pensent, « Eh bien, j'ai seulement besoin d'avoir plus d'argent. J'ai besoin d'une plus grande maison. J'ai besoin d'avoir une voiture plus rapide. » Mais cela ne remplit jamais le vide intérieur. Certains se tournent vers les sports extrêmes. Certains essaient même de faire de bonnes œuvres. Je vais aller servir dans la société. C'est noble et c'est bien et c'est même digne d'être félicité. Mais ça ne remplira pas le vide. C'est un creux qui a la forme de Dieu. Vous êtes destinés à vivre et à parler avec Dieu. C'est une question de nature. Nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Lorsque nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, Dieu a envoyé son Fils Jésus à cause de son grand amour. Dieu n'était pas fâché contre le monde. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cette expression « vie éternelle », c'est Zoé. Cela signifie la vie de Dieu, être reconnecté avec la vie de Dieu parce que nous étions séparés de lui. Être sauvé, être né de nouveau, le salut signifie être reconnecté avec Dieu. C'est revenir sous l'autorité de Dieu et faire à nouveau partie de sa famille. Et cela nous change vraiment, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça continue dans Romains, chapitre 5, verset 15. Il est dit, « Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. Si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, parlant d'Adam, beaucoup sont morts, spirituellement coupés de Dieu. Bien plus, oh j'aime ces mots, deux autres bons mots, bien plus, la grâce de Dieu et le don de la grâce viennent d'un seul homme, Jésus-Christ, pour beaucoup. » Il parle ici d'Adam et de Jésus. Savez-vous que Jésus est appelé le dernier Adam? Oui, en fait, il est venu pour restaurer ce que le premier Adam avait gâché. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. En Adam, tous meurent, en Christ, nous revivrons. » Aujourd'hui, toute personne qui me regarde, toute personne que vous connaissez, de votre famille ou de votre entourage, et soit en Christ, soit en Adam. Être en Adam veut dire que nous sommes des êtres humains, séparés, coupés de Dieu. Par contre, être en Christ est un choix que nous devons faire. Nous mettons notre confiance dans le fait qu'il est mort pour nos péchés sur la croix et qu'il a été ressuscité des morts pour notre justification. En confessant Jésus comme Seigneur, je me remets réellement sous l'autorité de Dieu. Je suis reconnecté, réunifié. Voici la vérité sur le sujet. Non seulement Jésus transforme les mauvaises personnes en meilleures, mais il rend également les morts vivants. Oui, nous étions perdus sans espoir, morts pour Dieu, morts à une relation avec Dieu, morts dans nos offenses et nos péchés. Mais Dieu. Mon ami, si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus, vous devriez le faire aujourd'hui. Confessez Jésus comme votre Seigneur, parce que vous ne trouverez pas de satisfaction ni dans une nouvelle relation, ni dans une nouvelle drogue, ni dans un sport extrême, ni dans de nouveaux objets. Vous ne remplirez ce vide qu'à travers une relation avec Dieu. Cela ne se fera qu'en mettant votre confiance en son Fils, Jésus-Christ. Je passe maintenant à un autre « mais Dieu ». Je vais passer ces quelques dernières minutes avec ça. Revenons encore une fois à Genèse 48, verset 21. Il est dit, « Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. » Mais Dieu. Israël dit, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. » Dieu était avec Israël, mais il allait aussi être avec Joseph. Mon ami, si un jour Jésus-Christ tarde, tous nos pères dans la foi vont mourir. Ils vont passer dans la gloire. Mais vous savez quoi? Dieu ne meurt pas avec eux. De même qu'il était avec eux, ainsi il sera avec nous. J'ai eu un certain nombre de pères et de mères spirituels. J'ai voyagé dans le monde entier et je suis allé dans différents pays avec certains d'entre eux. J'ai été tellement béni par leur enseignement, une grande partie de ma philosophie du ministère et les choses que j'ai apprises sur la foi viennent de mon temps avec ces gens qui parfois ont eu des difficultés. Mais vous savez quoi? Ils ont disparu de la scène. Et au cours des dernières années, j'ai perdu plusieurs autres amis dans la foi, des gens considérés comme des géants de la foi. En fait, ils étaient des révolutionnaires et des géants de la foi, et je prononce leur nom avec respect. Mais ils sont partis. Vous savez quoi? Ils sont partis, mais Dieu est toujours avec moi. J'ai ma propre course à faire. J'ai mes propres aventures à vivre avec le Christ. Israël a dit, « Je vais mourir, mais Dieu. » Peut-être que vous connaissez un grand homme ou une grande femme de Dieu que vous admirez, mais qui a failli. Cela vous a peut-être fait un choc et vous a un peu déraillé. Eh bien, vous savez quoi? Dieu est toujours là. Vous devez garder vos yeux sur Jésus, parce que nous avons tous ce trésor dans des vases d'argile. Il est possible qu'une connaissance que vous ayez admirée ait fini sa course et soit passée dans la gloire. Et ces personnes ont quitté ce monde sans avoir été impliquées dans un scandale. Mais la vérité est qu'elles sont parties. et vous désirez l'écouter, et vous désirez l'écouter enseigner. Vous désirez ardemment la voir physiquement. Mais elle est partie. Mais vous savez quoi? Dieu n'est pas parti. Le fait est que, si Jésus tarde, je vais m'éteindre. À présent, je ne me considère pas comme vieux. Je me sens comme un homme de 28 ans. Et je suis toujours très actif et en très bonne santé. Je remercie Dieu pour tout ça, tous les jours. Mais savez-vous, dans quelques semaines, je vais avoir 67 ans. Pour certaines personnes, je sais que ça paraît vieux. D'autres personnes pensent, « Ah, vous n'êtes qu'un jeune homme. » Eh bien, où que vous soyez sur cette échelle, je réalise que si Jésus tarde, j'attends son retour à tout moment. Mais s'il tarde, je vais aussi disparaître de la scène. Et avec un peu de chance, je vais manquer aux gens. Sachez que, même si je m'en vais, Dieu ne s'en va pas. Il restera avec les gens que j'ai gagnés au Christ, ainsi qu'avec ceux que Dieu a touchés par les dons qu'il a mis en moi pour son service. Dieu restera ici. 1 Samuel 15 parle de Saül, qui était le premier roi d'Israël, et Dieu lui-même l'avait choisi. Mais Saül a fait une erreur. Et la Bible dit que Samuel pleurait sur Saül. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Remplis ta corne d'huile et pars. Il y a quelqu'un d'autre à oindre. Le Saint-Esprit va encore oindre d'autres personnes. Dieu va toujours continuer à agir. Peu importe si quelqu'un qui était appelé, doué et mis à part par Dieu a commis des erreurs dans son ministère ou sa vie, remplissez votre corne d'huile et partez. Combien de temps allez-vous pleurer? C'est la question que Dieu a posée à Samuel. Mon ami, la vie continue, le ministère continue, les projets ainsi que les plans de Dieu continuent d'aller en avant. D'autres personnes vont être ointes par Dieu. Dieu a des plans qui s'accomplissent toujours dans ce monde. Dans Josué chapitre 1, verset 2, le Seigneur a également dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, lève-toi. » Il est possible que vous ayez perdu quelqu'un que vous admiriez. J'ai un message de Dieu pour vous. Mon ami, levez-vous. S'ils sont partis, ils sont partis. Il est temps pour vous de vous lever. Il se peut que votre mari vous ait quitté, ou peut-être votre femme, mais vous devez vous lever. Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Au verset 5, Dieu a continué de dire à Josué, « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Peut-être que quelqu'un vous a quitté, mais Dieu est avec nous, mais Dieu est avec vous. Mon ami, il y a encore des montagnes à conquérir pour Dieu. Il y a encore des exploits à faire pour Jésus. Dieu n'en a pas encore fini avec vous, et Dieu n'en a pas fini avec moi. Ses plans continuent de s'accomplir. Si vous me regardez en ce moment, j'ai une question. Êtes-vous prêt? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Vous pourriez faire autre chose. Vous pourriez être dehors avec vos amis. Pourquoi me regardez-vous en ce moment? Pourquoi? Je crois qu'il y a un dessein divin impliqué dans tout ça. Je crois que Dieu vous demande de vous lever. Vous devez réaliser que le mot « mais Dieu » doit être saisi dans votre vie. Les choses peuvent sembler finies. C'est comme si tout est fini. Vous avez peut-être eu un passé difficile, mais Dieu, Dieu essaie d'attirer votre attention. Vous pourriez penser, « J'ai fait tellement d'erreurs. Personne ne me respecte. Je ne mérite pas leur respect à cause de ce que j'ai fait. » C'est peut-être vrai, mais Dieu n'en a pas fini avec vous. Vous, mon ami, mais Dieu n'en a pas fini avec vous. Mais Dieu n'en a pas fini avec vous. Si vous vous humiliez devant lui, en lui demandant, « Dieu, voici les morceaux brisés de ma vie. Si tu peux en faire quelque chose, je les remets entre tes mains. » Mon ami, sachez que Dieu peut faire quelque chose à partir d'un rien. Il est le Dieu de la création. C'est par le souffle de sa bouche que les étoiles ont été créées. Votre situation n'est pas trop difficile pour lui. Votre histoire n'est pas terminée. Le dernier chapitre n'a pas été écrit dans votre histoire. Alors, je veux que vous preniez courage. Et si vous, pour quelque raison que ce soit, n'avaient jamais accepté Jésus-Christ, même les gens qui ont un problème avec l'organisation de l'Église n'ont généralement pas de problème avec Jésus. Et vous devez juste commencer par là. Il se peut que vous ayez été blessé par des choses qui se sont passées dans l'Église, par l'hypocrisie dans l'Église. Peu importe la raison, commencez simplement avec Jésus. Commencez là où vous êtes. Appelez-le. Faites appel à lui. La Bible dit que Dieu se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom de Jésus sera sauvée. Mon ami, son nom est Jésus. Faites appel à lui aujourd'hui. Et j'ai une faveur à vous demander. Si vous voulez, pourquoi ne pas nous écrire ou nous envoyer un email? Faites-nous simplement savoir si nous avons été une bénédiction pour vous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles pour qu'à la prochaine fois, je prie pour que les plus riches bénédictions de Dieu soient toujours avec vous. Je suis si heureux que vous m'ayez rejoint pour cette leçon. Et nous n'avons pas encore terminé sur le sujet. Nous avons un tas d'autres « mais Dieu » à voir. Vous devez alors vous joindre à nous la prochaine fois. Et si vous n'avez pas de Bible, allez vous en procurer une pour que nous puissions étudier ensemble la parole.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.